Riviera Ferraille.
Du sexe avec un fantôme, la grande prêtresse du sang, les tueurs de la lune de miel, les amants maudits de Borly, ce sont nos dossiers du jour dans le bureau des mystères de l'amour.
Bonsoir, bienvenue dans le bureau des mystères, je suis Mathias.
Et je suis Charles. Et ce soir, on avait envie de vous parler d'une thématique, hein. On avait déjà fait une émission de Noël, au moment de Noël, et ben là, on s'est dit qu'on allait vous parler d'amour. On va vous parler d'amour, pourquoi ? Parce que c'est la Saint-Valentin.
Et en cette Saint-Valentin, de l'amour, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous donner. On en a déjà à donner à nos copains de Distorsion. Vous avez peut-être eu vent de cette histoire, mais nous allons bientôt enregistrer avec Distorsion, un podcast québécois. On leur fait d'ailleurs un grand coucou. Ils ont vendu la mèche dans leur dernier numéro, qui était en fait un bilan de leur saison. Ils ont annoncé à leurs abonnés qu'on allait faire quelque chose ensemble. Et certains d'entre vous écoutez déjà Distorsion et l'ont appris. Donc nous officialisons maintenant, oui, il y aura bien un numéro avec Distorsion. On vous conseille d'ailleurs d'aller écouter leur podcast. C'est de très bonnes factures, de très bonne qualité. On avait aussi de l'amour à donner à beaucoup de gens qui ont parlé de nous, notamment à Charline du blog des Petits Papiers, à Madame Chouquette, à Sandy de Je ne sais point lire, qui nous ont mis dans leurs favoris podcasts sur leur blog. C'est très très gentil, et c'est ce qui est également très gentil, ce sont tous les auditeurs, toutes les auditrices qui nous ont laissé de nombreux messages sur l'émission, qui ont fait énormément de réactions tout ce dernier mois. Et voilà, on a même une auditrice qui nous a fait des bisous depuis le Brésil.
Oh, bah dis donc, c'est gentil. Et ouais. Traverse l'Atlantique. Et on a eu beaucoup de retours aussi, notamment sur Elisa Lam. Donc c'était toi qui en avais parlé, Mathias, hein, dans l'émission précédente. Il y a des points qui ont été soulevés et tu voulais les partager avec nous.
Oui, exactement. Alors c'est vrai qu'Elisa Lam, c'est une très très vaste affaire. On n'a pas eu le temps, évidemment, de tout raconter sur Elisa Lam. C'est une histoire qui a énormément de détails, notamment un qui a beaucoup fait parler sur internet et que je n'avais pas évoqué, et d'ailleurs on nous l'a évoqué sur les réseaux sociaux, c'est cette histoire du couvercle de la citerne. Alors je rappelle qu'Elisa Lam a été retrouvée dans une citerne d'eau, dans un réservoir d'eau sur le toit de l'hôtel Cecil à Los Angeles. Et beaucoup de gens se sont demandé comment elle avait fait pour l'ouvrir, parce qu'il paraît que le couvercle est très lourd.
Un peu lourd.
Voilà. Alors j'avais une théorie là-dessus, et d'ailleurs ce n'est pour ça que j'en ai parlé, parce que pour moi il n'y a pas vraiment de mystère à propos de comment elle s'est retrouvée à l'intérieur. On avait déjà dit qu'elle avait l'impression, sûrement parce qu'elle était en plein épisode psychotique, d'être poursuivie par quelqu'un. Et c'est vrai que dans ces situations-là, où on est en stress intense, il peut arriver qu'on développe une force un petit peu plus forte, parce qu'on est en situation d'urgence, notre corps se met en urgence. Et donc du coup, je pense qu'elle a soulevé ça, qu'elle a voulu se cacher à l'intérieur, et que malheureusement, une fois à l'intérieur, elle n'a plus pu ouvrir le couvercle, et que c'est sûrement pour ça qu'elle s'est noyée. Donc voilà, c'était l'idée que j'avais en tête. Alors là, je parlais qu'elle était sûrement poursuivie par quelqu'un. Il y a une autre possibilité qui avait été évoquée, une version un petit peu moins dark, c'était que sur la fameuse vidéo de l'ascenseur, qui est très étonnante, la possibilité qu'en fait elle ne soit pas en train d'essayer de fuir quelqu'un ou de se cacher, mais qu'elle soit tout simplement en train de jouer à cache-cache avec quelqu'un.
Un cache-cache qui tourne mal, du coup.
Un cache-cache qui aurait très mal tourné puisqu'elle a été retrouvée morte, évidemment, mais c'est une des théories qu'il y avait là-dessus, que en fait peut-être que c'était pas si dark que ça, qu'elle était juste en train de jouer à cache-cache.
On a eu aussi beaucoup de retours sur les ovnis de Lyon, alors déjà merci, hein, merci de nous avoir fait part de vos retours, et surtout en particulier d'une personne qui nous a envoyé un lien vers un texte. Alors c'est un texte qui vient d'un carnet hypothèse, donc pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas les carnets hypothèse, sont souvent les chercheurs, principalement en sciences humaines et sociales, qui tiennent un peu des petits blogs d'avancée de leurs recherches ou d'articles qui ne peuvent pas forcément publier dans des revues. Et là, en l'occurrence, il existe un article qui a été écrit par un jeune historien, un doctorant en histoire à Lyon, sur ces venues d'extraterrestres potentiels, et qui s'attardait surtout sur le pourquoi de l'implication des personnalités religieuses et à quels autres événements ça fait référence. Donc merci beaucoup, c'est un article très instructif qu'on pourra vous poster sur le Facebook de l'émission.
Exactement, et d'ailleurs, il y a, en parlant de choses qu'on poste sur le Facebook ou sur le Twitter de l'émission, j'avais des choses à dire sur La Cité dans le Ciel, la deuxième histoire que j'avais évoquée dans le numéro de la dernière fois. J'ai plusieurs erreurs à corriger, hein. Pan sur le bec, comme dirait le canard enchaîné. J'ai fait quelques petites erreurs et je voulais les rectifier, puisque c'est important de dire des choses vraies dans cette émission. J'avais dit que les mirages étaient des hallucinations, c'est complètement faux. Voilà, donc les mirages se forment bien, voilà, ce n'est pas une hallucination qui se passe dans votre cerveau, hein, c'est une... Ça se passe vraiment visuellement. Donc voilà, à l'avenir, je bosserai un petit peu plus quand je me lancerai sur ce genre de sujet scientifique, puisque voilà, ce n'est pas non plus mon fort. Et d'ailleurs, il y a pas mal de personnes, je crois qu'il y a au moins 3 personnes qui nous ont envoyé cette vidéo. D'ailleurs, je voulais en parler sur la Fata Morgana. Alors, du coup, l'explication principale pour ces cités qu'il y avait dans le ciel, dans les médias, ça a été que c'était une Fata Morgana. Donc, je ne vais pas re-rentrer dans les détails de ce qu'est une Fata Morgana, puisque je ne maîtrise pas à fond le sujet scientifique. Mais il y a aussi la possibilité que ce ne soit pas une Fata Morgana et que ce soit tout simplement un fake. Et ça, pour toutes les vidéos de cités dans le ciel qui sont apparues en Chine, puisqu'il y en a eu plusieurs.
Fake news, donc.
Ce serait une fake news selon le YouTuber Captain Disillusion, donc qui est un YouTuber américain, mais quasiment toutes ses vidéos sont sous-titrées en français. Donc si vous aimez ce qu'on fait et que vous aimez le debunking, allez, regardez sa chaîne, c'est vachement bien. Moi, je ne la connaissais pas avant que ces 3 auditeurs nous la conseillent. Et franchement, bah, du coup, c'est super. Ça nous a permis de découvrir pas mal de choses, donc merci. On a cru ces sources qui sont d'ordinaire très fiables. Hein. Moi, pour faire ce dossier sur les cités dans le ciel et les Fata Morgana, j'ai pris des articles, par exemple, du Télégraphe, enfin des journaux qui ont plutôt bonne réputation. Et peut-être qu'eux se sont fait avoir, et nous, bah, par ricochet, nous sommes peut-être fait avoir. Ou pas. Car il y a quand même une nuance à apporter. National Geographic, donc là on part sur vraiment un magazine très important sur tout ce qui est science, qui a contacté une des scientifiques du Centre National des Recherches sur l'Atmosphère à Boulder, dans le Colorado. Donc là on est sur dur, hein, du très, très, très scientifique. Et cette personne a dit qu'il y avait une possibilité, effectivement, que la vidéo soit un fake, mais que ce n'était pas prouvé. Donc pour le moment on garde le doute, et elle affirme que si la vidéo est authentique, dans le cas où elle serait effectivement authentique, ce serait bien un cas de Fata Morgana.
Ah, donc pas si Alors, loin de la vérité finalement.
Pas si loin de la vérité, l'hypothèse c'est peut-être que des journalistes de ces agences ont demandé à des scientifiques d'expliquer ce qu'était la vidéo, mais peut-être sans leur préciser dans leur question que ça pourrait être un fake. C'est peut-être que la vidéo en elle-même n'a pas été vérifiée, qu'elle a été présentée à des scientifiques qui ont dit oui, c'est une Fata Morgana, puisque c'est le phénomène qui s'en rapproche le plus. Donc voilà, c'était toutes nos précisions à faire sur le dossier des cités dans le ciel. Ouais. Et ça faisait pas mal de précisions, cette introduction est très longue aujourd'hui.
Bah du coup j'ai envie de te dire, hein, après tout ça, place à l'amour, place à l'amour sous toutes ses formes, place à nos dossiers du jour.
Pour un bon coup, frappez 3 coups. Après une rupture difficile, Sian Jameson, une jeune galloise, a décidé de se mettre au vert dans un cottage à la campagne. Elle ne pensait pas qu'elle y retrouverait l'amour en la personne d'un fantôme du 19e siècle, a priori très doué au lit.
Ça part bien.
Ah oui, bah là, écoute, on va parler de sexe et d'amour, puisque c'est la Saint-Valentin. C'est une histoire qui nous vient tout droit du Western Mail, un tabloïd du Pays de Galles, qui nous raconte l'histoire incroyable de Sian Jameson, une jeune femme de 26 ans, qui assure avoir eu des relations sexuelles avec un fantôme. Alors, on va revenir au début. Sian habitait à Londres avec son petit ami. Mais au bout de 3 ans d'amour, ils ont brusquement rompu. C'est triste, mais ça arrive. La séparation a été très difficile à vivre pour Sian, puisqu'elle a carrément décidé de quitter Londres pour aller dans la campagne galloise.
Ah oui, c'est un départ, un nouveau départ.
Un nouveau départ, puisqu'elle dit que tout à Londres lui rappelait son ex et qu'elle avait vraiment besoin de ce nouveau départ. Et ce nouveau départ-là, elle l'a pris dans un charmant cottage situé dans l'ouest du Pays de Galles, à Aberystwyth, qu'elle s'est installée en fait là-bas. Elle est arrivée dans une jolie maison qui datait du 16e siècle. Très beau cottage, qui était déjà bien meublé. Elle raconte d'ailleurs au Western Mail que le propriétaire avait laissé des livres et des peintures sur place, des livres anciens, des belles peintures. Et justement, parmi ces peintures, il y a un des tableaux accrochés au-dessus de la cheminée du salon qui a immédiatement attiré son attention. On y voyait dessus un jeune homme très charmant qui aurait été, si l'on croit la date sur le tableau, immortalisé en 1820. Et pendant plusieurs mois, Sian profite du charme, du calme de cette maison. Elle était très heureuse d'être seule, hein, comme elle le raconte, sans avoir à se soucier des hommes, puisque voilà, cette rupture a été très compliquée. Et puis un jour, elle a commencé à faire des rêves érotiques. Et ses rêves sont devenus étonnamment réels lorsqu'un fantôme a fait irruption dans son lit.
C'est... Alors, ouais, ok, d'accord. C'est... Il avait la forme classique telle qu'on peut l'imaginer d'un fantôme, du coup ?
Alors, écoute, je vais te donner la description qu'elle a donnée au Western Mail, évidemment. Alors, elle raconte ce qui s'est passé un matin, donc c'est son témoignage. « Je me suis réveillé et j'ai vu qu'un jeune homme très beau, à la chevelure ténébreuse, était allongé à côté de moi. Il était tout habillé. Il portait un large haut blanc, une écharpe et une paire de culottes anciennes. J'avais l'impression qu'il chatoyait, comme s'il était derrière un voile. Je me suis dit que je rêvais et je me suis tourné. J'ai soudain réalisé que je n'étais pas endormi et soudainement, j'étais parcouru de frissons. Et j'ai senti une main sur mes hanches et la sensation était étrange, fraîche et légère. » Voilà, alors Sian s'est de nouveau tournée le lit et elle a reconnu l'homme sur le tableau. Et comme elle le trouvait très beau, ils ont immédiatement fait l'amour.
Ah ouais, dis donc, putain. Ça en pécho facilement quand on est fantôme, en fait.
Écoute, visiblement.
Un beau fantôme, en tout cas.
En l'occurrence. Alors, je suppose que maintenant, il y a une question qui te brûle les lèvres. À quoi ça ressemble le sexe avec un fantôme ?
Ah bah, écoute, ouais. Ouais, oui, si, c'est vrai, ça m'intéresse en plus.
Bah, on pourrait en faire un vaste sujet. On pourrait carrément en faire un numéro spécial, comme l'a fait l'excellent podcast américain dont on a déjà parlé ici, Last Podcast on the Left. Tellement il y a des témoignages et de oui. sexe avec des fantômes.
Et oui, et oui.
Il y en a beaucoup, beaucoup. Et pour ce qui est de celui de Sian Jameson, le voici. Pendant qu'on faisait l'amour, j'ai ressenti beaucoup de choses à propos de lui, comme son nom, Robert, et l'époque à laquelle il vivait, il y a 100 ans. Nous n'avons pas parlé, c'est comme si nous communiquions par la pensée. Son corps était doux et léger, même quand il est monté sur moi, c'est comme s'il n'avait presque pas de poids. C'était très bizarre, mais le sexe était génial.
Ah, tu veux dire qu'il aussi pénétré son cerveau ? D'une certaine manière.
C'est exactement ça.
C'est un échange de savoir, en l'occurrence.
Exactement, c'est plus que du sexe. C'est une ouverture vers un autre monde. Enfin bref, sur le coup, Sian, elle a trouvé ça très bien, elle a trouvé ça génial, comme elle le dit, mais elle a quand même voulu se convaincre que ce n'était qu'un rêve, hein, parce que bon, c'est quand même arrivé un moment où elle était en train de se réveiller, donc est-ce que c'était pas les restes d'un rêve, peut-être. En tout cas, elle a voulu se persuader que rien ne s'était passé, sauf que le lendemain matin, Robert le fantôme est revenu. Et ils ont refait l'amour. Et là, Sian a attendu qu'il sorte du lit, qu'il se rhabille, parce que hein, on a beau être un fantôme, on enlève quand même ses vêtements fantômes, mais on remet ses vêtements fantômes.
Enfin, on peut être un peu pudique. Hein.
Bah, effectivement. Elle a attendu qu'il sorte de la chambre pour essayer de le suivre. Mais elle dit que ses pas ne produisaient aucun bruit et que quand elle a poussé la porte pour le rejoindre dans les escaliers, il avait déjà disparu. Il est revenu une dernière fois, dans la nuit, au moment où elle allait s'endormir. Il a relevé sa nuisette, il lui a caressé la cuisse, et puis il est parti. Et à ce moment-là, Sian a compris que ce serait la dernière fois qu'elle le verrait. Alors elle a pleuré, parce qu'elle avait, comme elle le dit, des sentiments pour lui. Elle croit qu'elle était déjà tombée amoureuse de Robert le fantôme.
Oh, choupette.
Alors, comme beaucoup de personnes qui essayent de retrouver un amour, elle a essayé de le retrouver grâce à Internet, évidemment. Ou au moins de découvrir son identité grâce à Internet, puisqu'on découvre tout sur Internet.
Oui.
Donc, elle a fait beaucoup de recherches et elle a simplement trouvé une peinture d'un jeune homme qui avait été réalisée par un artiste français au 19e siècle et qui lui ressemblait pas mal. Elle en a aussi parlé avec des amis, mais elle dit que c'était plutôt une erreur d'en parler à ses amis parce qu'ils l'ont pas cru et qu'ils l'ont regardé comme si elle était folle. Bon, ça l'a pas empêché d'aller tout raconter à la presse par la suite. Donc voilà, dans le Western Mail, Sian maintient encore aujourd'hui qu'elle a bien fait l'amour avec un fantôme. Elle dit d'ailleurs que le fantôme était un très bon coup, si ce n'est le meilleur de sa vie. Et elle dit même au Western Mail de ne pas le dire à son copain. Parce que oui, le Western Mail précise qu'elle est aujourd'hui en couple, je cite, « avec un homme vivant », cette fois. Donc on saisira la petite ironie du Western Mail qui me fait beaucoup rire. Bon, alors voilà, ça c'était l'histoire. Évidemment, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Cette histoire de sexe avec un fantôme, tu te doutes de la réponse.
Et bah, j'ai envie de... Là, tu vois, c'est bien, c'est la Saint-Valentin, j'ai envie d'être un peu romantique, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire.
Eh bien, je vais briser tes rêves et les rêves de nos auditeurs immédiatement. D'abord, avec quelques précisions. Sian est auteur dans la vie.
Ah.
Et elle reconnaît que la campagne galloise l'a beaucoup inspirée. Elle a également toujours cru aux fantômes, même si elle précise quand même au Western Mail qu'elle n'avait jamais été aussi intime avec un fantôme avant. C'est important de le préciser. Et ces histoires de sexe avec un fantôme, si tu en crois certains chasseurs de fantômes, c'est plausible. Mmh. Mais c'est en croire certains chasseurs de fantômes. En fait, le Western Mail malin a consacré une psychiatre, et elle, elle est très très claire sur la question. Pour elle, c'est évident qu'on a affaire à des hallucinations parce que ces manifestations se sont toujours produites soit au réveil, soit au moment de s'endormir.
Ah, intéressant.
Qui sont deux moments assez propices à ce genre d'hallucinations. Mmh. En fait, un petit peu comme des rêves éveillés, si tu veux. Elle reconnaît que ça peut paraître très réel et très étrange pour les personnes qui les vivent, mais elle précise même qu'on peut avoir des sensations, hein, entendre, voir des choses, ressentir. Mmh. Elle dit que c'est souvent les jeunes et les femmes qui sont plus susceptibles d'être touchés par ce phénomène-là.
Pour quelle raison ?
A priori, c'est empirique, hein, c'est quelque chose qui a été analysé. Ça arrive plus souvent, visiblement, aux jeunes et aux femmes, et il se trouve que Sian est une jeune femme.
Mmh. Oui.
Donc elle coche les deux cases. Et surtout, plusieurs facteurs peuvent provoquer ça, la prise de drogue, un traumatisme, du stress, de l'anxiété. Et c'est vrai que quand Sian est arrivée au cottage, je l'ai précisé plusieurs fois, elle avait du mal à se remettre de sa rupture.
Oui.
La rupture avait tellement été difficile qu'elle avait carrément dû quitter Londres à cause de ça, donc une rupture très très difficile. Et pour la psychiatre, il est possible que ce Robert, qui est tendre, qui est passionné, qui est doux, ait répondu en fait à ce besoin de douceur et d'amour qu'elle avait inconsciemment.
Mmh.
Ou alors, elle a peut-être juste tout inventé pour faire parler d'elle dans la presse. Mais comme c'est un numéro de l'amour,
ouais,
je préfère croire
qu'elle a
donné forme à Robert parce qu'elle avait tout simplement besoin d'amour.
Oh, c'est trop mignon. Elle a pas essayé de le retrouver sur Tinder ?
Ouais, on va voir si Tinder pour
réduisant la géolocalisation dans son cottage.
Oh là là. Donc voilà, le degré de mystère n'est pour moi pas très élevé, puisqu'il est évident que Sian n'a pas eu affaire à un vrai fantôme. Ou en tout cas, si c'était un vrai fantôme, c'était un très bon coup. Et l'affaire est 1000 fois classée.
Oui, ouais.
Mais je pense qu'on reparlera quand même dans l'émission d'autres cas de sexe avec des fantômes. Mm-hmm. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y en a vraiment beaucoup. Et certaines histoires sont plutôt amusantes. Donc ça peut être rigolo d'en reparler, ouais, je pense.
On en fera peut-être un même spécial là-dessus.
On verra ça. En tout cas, pour le moment, affaire classée.
La grande prêtresse du sang. Magdalena Solis était prostituée au Mexique au début des années 1960 quand elle a réussi à faire croire à un village entier qu'elle était la réincarnation d'une déesse inca pour assouvir ses désirs. Parce que oui...
On parle donc d'amour de masse.
C'est ça, c'est un amour inconditionnel de masse, tu vas voir. Et surtout, on parle là, en l'occurrence, d'une des très rares serial killeuses dont les motivations ont été établies comme sexuelles. Donc là, je fais déjà un pont pas possible. Saint-Valentin égale sexe, tu vois. J'ai complètement enlevé l'amour, mais c'est pas grave. Donc tout commence entre la fin de l'année 1962 et le début de l'année 1963, quand les deux frères Hernandez, donc nommés Santos et Cayetano, s'installent dans le village de Yerba Buena, en un seul mot, ça veut dire bonne herbe, au Mexique. C'est un village plutôt très isolé, avec une population qui est à l'époque essentiellement paysanne, plutôt pauvre et plutôt illettrée hein, pour la majorité. Et les deux frères donc, vont profiter un peu de l'état des choses pour s'autoproclamer comme ça, au calme, prophète des dieux incas exilés. Bah déjà, c'est hyper cool comme titre. Hein. Moi, je suis preneur. Je pense que les frères Hernandez, ils avaient sans doute fait des études de marketing hein, pour trouver un nom aussi cool. Donc, les villageois vont accueillir à bras ouverts les deux frères sans nécessairement remettre en question ce qu'ils racontent. Surtout qu'ils promettaient un peu monts et merveilles. Hein. Ils promettaient de l'or, des trésors et tutti quanti. Dans les sous-sols, où il devait y avoir les trésors, les deux frères, en réalité, faisaient du trafic de drogue. Ils y ont organisé des orgies et ont transformé en esclaves sexuels beaucoup des hommes et des femmes du village. Donc en fait, là, on part sur un gros délire de secte en construction. Sauf que les villageois, après offrandes et soumissions, ne voyaient toujours pas l'or et les trésors arriver. Donc ils ont commencé à s'énerver un petit peu hein, et à remettre en cause le soi-disant pouvoir des frères Hernandez, hein, ce dont on peut facilement se douter. Ils partent, donc les frères Hernandez, ils se sentent un petit peu là qu'ils sont pas loin de se faire casser la gueule, hein, donc ils décident de partir, mais ils disent qu'ils vont revenir, ils disent qu'ils vont revenir avec une divinité, qu'ils vont prouver qu'ils sont bien les prophètes qu'ils prétendent être. Donc du coup, ils partent du village à la recherche d'une prostituée qui pourrait contribuer, disons, à continuer un petit peu la supercherie. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont tomber sur Magdalena Solis. Magdalena Solis, dont le frère était aussi le Mac. Donc on est sur une bonne ambiance dans la famille. Il retourne à Yerba Buena avec Magdalena, et du coup, et son frère, et présente avec une mise en scène à base d'écrans de fumée, voilà, de petites choses comme ça, il la présente, Magdalena, comme la réincarnation d'une déesse inca. Sauf que, à partir de là... les petits rites, hein, les orgies et les esclaves sexuels vont devenir beaucoup, beaucoup plus sordides. Puisque Magdalena, contre toute attente, enfin, disons que les frères Hernandez n'avaient pas particulièrement anticipé ça, va commencer à prendre beaucoup de plaisir dans le sadisme et va commencer à consommer le sang des personnes qu'elle va maltraiter. Donc voilà, il faut imaginer qu'il y a des coups de fouet, qu'il y a des choses comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai imaginé, hein. Il n'existe aucune photo. Elle va commencer à consommer le sang des personnes qu'elle va frapper. Au fil des semaines, le leadership va complètement changer de main. Et c'est Magdalena qui va prendre complètement le contrôle du village. Donc, chose que, disons, je pense que les frères Hernandez l'espéraient un petit peu, que les villageois croient, disons, Magdalena comme divinité. Mais alors là, c'est un renversement total. C'est complètement elle qui contrôle le village. Et c'est à ce moment-là que l'horreur va vraiment débuter. Puisque à ce moment-là, deux villageois qui commençaient à être physiquement fatigués, hein, des abus sexuels, vont tenter de fuir le village. Là, Magdalena va faire preuve de son pouvoir, puisqu'ils vont être rattrapés par ceux qui l'avaient vénéré. Et ils vont être lynchés à sa demande, donc lynchés à mort. Donc voilà, on a un body count qui est déjà de deux morts. Et après ces deux meurtres, Magdalena va devenir toujours plus violente et ne se contentera plus des orgies. Elle va commencer à demander des sacrifices humains dans l'objectif à chaque fois de boire le sang des personnes tuées. Donc là, on est sur une escalade qui est quand même assez rapide, hein, à partir du moment où les frères Hernandez partent en quête d'une potentielle divinité, au moment où ils ramènent Magdalena, qui apparemment a eu un effet, disons, assez unanime et immédiat, hein, on part très rapidement sur du sacrifice humain. Et elle ordonnait les rites, c'est-à-dire qu'il y avait des rites qui étaient en effet tirés des divinités inca, mais il y avait aussi des trucs qu'elle inventait un petit peu. Le sang humain devait normalement s'accompagner d'un sacrifice animal. Et là, en l'occurrence, c'était mélanger le sang de l'humain, le sang de l'animal, aux drogues des frères Hernandez, donc à savoir la marijane, hein, la marijuana, et la peyote. Donc la peyote, c'est une plante, hein, qui sert notamment à la fabrication de la mescaline, mais qui était consommée comme telle, hein, non transformée, depuis, je crois, j'ai lu sur internet, 5700 ans par les natifs américains, donc c'est un gros antécédent, une grosse histoire de la drogue. La plupart du temps, elle demandait à ce que la victime saigne jusqu'au décès, donc Magdalena n'abrège pas vraiment les souffrances, hein. Elle est plutôt elle est plutôt dans le elle entretient un petit peu la douleur le plus longtemps possible. Et à ce moment-là, donc elle laissait ses victimes saigner avec le sang qui était évidemment immédiatement récupéré, et on lui tendait la boisson, donc la boisson qui mélangeait sang humain, sang animal, drogue des frères Hernandez dans un calice, hein, dans un vase sacré qu'on lui tendait. Et c'est pour dire à quel point, elle était au centre, elle était sur son trône, elle buvait en premier, et seulement après, elle laissait les prophètes, donc les deux frères Hernandez et son frère, boire par la suite. Et ben, dis-toi que cette boucherie va durer pendant 6 semaines d'affilée. 6 semaines d'affilée.
C'est énorme.
Ouais. Pendant 6 semaines, Magdalena va être en roue libre, hein, complètement en roue libre, complètement habitée par la déesse inca inventée. Et 4 autres personnes mourront sous ses ordres. Et il va falloir attendre, du coup, mai 1963. Hein, donc je rappelle que les frères Hernandez arrivent entre fin 62 et début 63. Il va falloir attendre mai 63 pour qu'un jeune garçon qui vivait dans le village assiste par hasard à un des rites. Alors les rites, ça pouvait être, c'était beaucoup de choses. Hein. Il y avait de la pédophilie, il y avait des meurtres, il y avait des mutilations, il y avait de l'esclavage sexuel, il y avait toute une batterie de rites pour Magdalena. Et lui, le jeune garçon, il a été attiré par les bruits et les lumières. Donc il va jeter un coup d'œil. Il va jeter un coup d'œil et là, ça va pas lui plaire, hein, le petit garçon de 14 ans. Il va tellement avoir peur qu'il va paniquer et courir jusqu'à la grande ville la plus proche, hein, à savoir Villagrane. Et j'ai regardé sur Google Maps, par curiosité. Yerba Buena et Villagrane ont quand même une distance d'environ 30 km. Il y a une petite trentaine de kilomètres qui les séparent. Donc voilà, pour te dire à peu près à quel point le petit garçon était terrorisé. Moi, si je suis terrorisé, je pense que je cours 1 km maximum. Lui, il en a couru 30. Pour vous donner une petite idée de ce qu'il a pu voir.
Au bout du deuxième, tu commences à être un peu moins terrorisé.
Je suis plus fatigué que terrorisé, quoi. C'est ça. Je pense que, ouais. Et du coup, il va réussir à aller jusqu'au commissariat. Il va décrire du mieux qu'il peut ce qu'il a vu, du coup, à l'inspecteur Luis Martinez. Alors, il va parler de vampires parce qu'il a vu des humains qui buvaient du sang humain. Il va décrire ça un peu du mieux qu'il peut. Et le policier lui propose de se reposer. Et le lendemain, il accompagne le petit garçon à Yerba Buena, et ce fut malheureusement le dernier jour où l'on aperçut et l'inspecteur et le petit garçon. C'est-à-dire qu'il décide de l'accompagner à Yerba Buena pour lui dire « Écoute, voilà, on va aller sur place pour vérifier ce que tu me dis », et on ne les a pas revus. Il faudra attendre la fin du mois de mai 1963, le 31 exactement, pour que finalement et la disparition du petit garçon soit signalée, mais aussi la disparition de l'inspecteur de police, qui avait fait un peu plus de remous, parce que le petit garçon, personne ne le connaissait. Du coup, l'armée sera déployée. L'armée, carrément, ils vont déployer une unité autour du village. Et Magdalena et les frères Hernandez seront enfin arrêtés. Les deux frères vont mourir dans les opérations. Ils vont soit essayer de s'échapper, soit essayer de résister. Magdalena, elle, va s'en sortir vivante. Les corps de l'inspecteur et du garçon seront retrouvés, mais avec une petite subtilité, puisque le cœur de l'inspecteur a été arraché. Seront également retrouvés 6 autres corps démembrés, souvent cachés dans les sous-sols investis par du coup les frères Hernandez. Magdalena et son frère,
quelle histoire.
Et oui, c'est un petit peu compliqué, hein. Magdalena et son frère, du coup, seront condamnés à 50 ans de prison pour les meurtres du garçon et du policier. Mais la participation de Magdalena pour les autres meurtres ne sera jamais établie. Et c'est là qu'on voit que l'amour est finalement plus fort que toute autre chose, puisque tous les autres membres de la secte, même libérés de son emprise, disons physique, ne révéleront jamais ce qu'elle a réellement fait. Ils se tairont, ils refuseront catégoriquement de parler de Magdalena. Donc tous les membres de la secte vont se taire et continuer à vénérer Magdalena comme étant une déesse inca.
Est-ce qu'on peut vraiment parler d'amour dans cette situation? Je ne sais pas.
Je ne pense pas non plus. Mais bon, c'est un amour à la Bureau des Mystères. Hein. Vous ne pensiez quand même pas qu'on allait vous envoyer des roses et un petit mot et des choses comme ça. Là, on est sur de l'emprise.
De manipulation de masse, ah oui, d'emprise,
de jeux sexuels,
de mutilation, de tout ça.
Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que à la base, les villageois étaient partants, tu vois. Il faut surtout pas vous fier aux photos que vous trouvez sur Internet, parce que souvent, il y a une Magdalena qui est souvent montrée en portrait noir et blanc, alors il s'avère que c'est pas elle. Il n'existe pas de photographie de Magdalena Solis. Les rumeurs disent évidemment qu'elle était absolument magnifique et que, de toute façon, les hommes et femmes tombaient sous son charme immédiat une fois incarnés en déesse inca.
Du coup, il n'y a pas vraiment de degré de mystère à accorder à cette histoire.
Pas
je
vraiment.
Pense qu'on est affaire
bah,
à,
si, ceci dit, quand
à
même,
à une secte qui a mal tourné.
Ouais, une secte qui a mal tourné, mais il y a quand même la question de l'emprise. Les frères Hernandez, ils se sont fait quand même botter le cul au moment où ils ont senti que ça commençait à sentir le roussi. Ils ont dit « Ah oui, on va revenir avec une divinité », mais ils étaient plus sereins dans le village. Si tu veux, les villageois commençaient à se vénérer contre eux, alors que Magdalena, elle faisait ce qu'elle voulait. Hein.
peut-être un pouvoir surnaturel.
Mais oui, c'est bien ce qu'elle disait, en tout cas, quand elle buvait le breuvage de mélange de sang humain, de sang animal et de drogue des frères Hernandez, elle disait que ça, que ça pouvait lui donner des pouvoirs surnaturels.
Bah écoute, par contre, je pense qu'on peut classer l'affaire là-dessus,
oui,
non ?
Oui, 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 on peut complètement.
Ok, classons l'affaire dans ce cas. Les amants maudits de Borley. Avant d'être détruit en 1944, le presbytère de Borley a été considéré comme le lieu le plus hanté d'Angleterre. On raconte que parmi les fantômes, il y avait un couple impossible. Un moine et une nonne qui auraient été condamnés à mort pour leur amour interdit et seraient restés accrochés à ces vieilles pierres. Alors, pour cette histoire, je vous emmène, comme je l'ai dit, à Borley, dans le comté d'Essex, dans l'est de l'Angleterre.
Le comté d'Essex ?
D'Essex, dans l'Angleterre. Le presbytère, parce que c'est comme ça qu'on appelle la résidence d'un homme d'église. Ici, c'est une maison de style victorien, avec une belle façade en briques rouges d'aspect plutôt gothique. Elle a été construite en 1862, mais elle a été bâtie sur le site d'un ancien bâtiment qui avait été détruit un peu plus tôt par un incendie en 1841. Sur le terrain, on trouvait, logiquement, puisque c'est son nom, l'église de Borley, qui datait du XIIe siècle. Le presbytère de Borley a longtemps été considéré comme la maison la plus hantée d'Angleterre. C'est en tout cas comme ça que l'a décrite Henry Price, un des enquêteurs du paranormal les plus en vogue au Royaume-Uni dans les années 20. De nombreuses histoires, des enquêtes, des contre-enquêtes existent à propos de ce lieu qui a quand même une aura très étrange. Il y a de quoi en parler d'ailleurs pendant des heures, hein, et j'y reviendrai sûrement dans l'émission un jour. Mais pour l'instant, j'ai décidé de me focaliser sur l'histoire la plus célèbre, celle qui a fait couler le plus d'encre à la fin des années 20. Mais avant de s'y plonger totalement, on va peut-être commencer par le début, tout simplement.
C'est pas mal.
Le début, c'est qu'en 1863, le pasteur Henry Dawson Ellis Bull est nommé recteur de la paroisse de Borley. Et comme il est nommé recteur, il a le droit à ce presbytère dans lequel il s'installe avec sa femme et ses 14 enfants.
Oui, d'accord.
On part sur une famille nombreuse.
Oui.
On raconte que dès les premiers mois, des bruits ont commencé à se faire entendre. Mais bon, rien de bien méchant, on part sur du classique. Des petits grattements, des bruits de paille inexpliqués, ce genre de choses. Par contre, on parle aussi d'une apparition fantomatique, qui empruntait toujours le même chemin sur la propriété. Et selon la légende, Henry Bull, donc le pasteur, aimait bien passer du temps dans sa maison d'été, qu'il avait fait construire sur le terrain, pour regarder passer cette apparition. On raconte qu'il s'installait sur la terrasse avec son fils Harry, et qu'ensemble, ils guettaient le fantôme en fumant des cigares.
Oh, calme, dis donc.
Oui, voilà, on était habitués, en fait, à cette présence, on aimait bien l'observer, a priori, enfin, c'est ce que raconte, en tout cas, la légende, mais j'y reviendrai après. En 1892, Henry Bull meurt, et c'est son fils Harry qui récupère son poste de recteur, et du coup, avec le domaine. 8 ans plus tard, ses sœurs ont été témoins d'une apparition qu'elles ont décrite avec beaucoup de précision. Donc, flash forward jusqu'au 28 juillet 1900. Le 28 juillet 1900, 4 des filles du révérend Bull font une effrayante rencontre. Elles assurent qu'elles ont vu, au crépuscule, à seulement quelques dizaines de mètres de la maison, le fantôme d'une nonne. Elles auraient essayé d'entrer en contact avec elle, mais l'apparition aurait disparu avant qu'elles puissent l'approcher de plus près. Et là, l'enquêteur du paranormal Harry Price, dont j'ai parlé juste avant, raconte que de nombreux autres phénomènes ont été aperçus au presbytère de Borley dans les 2 décennies qui ont suivi. La plus récurrente, ce serait l'apparition très très régulière d'une calèche fantomatique qui serait dirigée par 2 conducteurs sans tête.
Oh, c'est stylé comme image, ça.
Ouais, c'est on a un imaginaire gothique là, qui se met en place. Hein. On imagine la brume sur la lande, c'est complètement l'ambiance. Hein. Vous chercherez des photos du presbytère de Borley, on est complètement là-dessus. En 1927, Harry Bull, donc le fils, meurt et sa famille quitte le presbytère. De nouveaux occupants, le révérend Guy Eric Smith et sa famille, emménagent à Borley, même s'ils connaissent l'histoire compliquée du lieu, hein, ils s'installent en connaissance de cause. Et là, quasi immédiatement, ils sont à leur tour témoins de phénomènes. Des bruits étranges, des lumières d'origine inconnue dans la nuit, et évidemment, la fameuse apparition de la calèche sur le terrain du presbytère. Alors la famille Smith contacte le Daily Mirror, qui est voilà, le journal national qui existe encore aujourd'hui et qui était à l'époque très très connu, hein, plutôt de type tabloïd, pour raconter l'histoire du presbytère et attirer l'attention des spécialistes du paranormal, dont le fameux Harry Price. L'article est paru le 10 juin 1928 dans le Daily Mirror, et il raconte la terrible légende qui serait à l'origine de toute cette activité paranormale autour du presbytère de Borly. Alors voilà ce qu'on peut y dire. C'est l'article original du 10 juin 1928. Le bâtiment principal est bâti sur un ancien monastère qui a été au Moyen-Âge le théâtre d'une terrible tragédie. Un écuyer du monastère est tombé amoureux d'une nonne d'un couvent situé non loin de là. Selon la légende, ils avaient l'habitude de se retrouver en secret dans les bois situés derrière l'emplacement actuel du presbytère. Un soir, ils ont voulu partir. Un autre écuyer du monastère les attendait dans une calèche, sur leur route à la lisière des bois, pour les aider à prendre la fuite. Alors à cette étape-là, le Daily Mirror précise qu'il existe deux versions de cette légende. Dans le premier cas, les amoureux se seraient disputés et le jeune moine aurait étranglé la nonne. Il aurait ensuite été jugé et décapité. Et l'autre version, c'est celle qui a le plus pris en fait chez les amateurs de paranormal, dit qu'ils ont tous les trois été arrêtés par les moines, qui les ont empêchés de s'enfuir, et que donc les deux écuyers moines qui conduisaient la calèche ont été décapités, et que la nonne a été emmurée vivante dans le monastère. Et que depuis, il entrait les terres de Borly. Ça fait peur, hein?
Ouais, emmurée vivante, c'est angoissant, ça.
Ouais, exactement, ça, c'est très effrayant, et jusque-là, l'histoire, cette légende se tient plutôt pas mal, mais est-ce que c'est vrai, là encore, au risque de vous décevoir, la réponse
oh,
est non.
Oh, bah alors.
Mais oui, je vous détruis tout, mais en fait, ce qui est intéressant dans ces histoires, c'est de comprendre comment elles se sont construites, c'est ça qui et me oui. plaît. Et en l'occurrence, la société historique locale, qui s'appelle la Fox Earth and District Local History Society, a travaillé sur ce dossier-là pendant 15 ans. Donc c'est quand même une grosse enquête. Et Andrew Clark, c'est la personne qui a chapeauté le projet, a publié sur le site de l'association le résultat de ses très longues recherches. Et pour commencer, il a découvert qu'il n'y avait tout simplement jamais eu de monastère ni de couvent à Borly. Purement
simple. Il y a rien. C'est-à-dire à l'endroit, il y a pas de fondation, il y a rien.
Non, il a recherché dans les registres du comté. Il n'a trouvé aucune trace non plus de l'exécution d'une nonne ou de moine dans des circonstances similaires. Donc pour lui, tout ça. C'est une invention de la famille Boulle qui aimait, comme Attends. Il le précise, beaucoup le paranormal et les légendes locales. Parce que
alors,
là, on
du
parle
coup,
vraiment de légendes.
Les 15 ans d'enquête ont été nécessaires pour déterminer qu'il n'y avait pas de bâtiment, c'est ça?
Alors non, parce qu'ils ont enquêté sur d'autres choses. Et je vais
ah d'accord. Bah, okay.
Notamment déjà pour retrouver les articles d'origine, puisque cet article du Daily Mirror a été retrouvé par la société historique locale, qui a également retrouvé des coupures de presse de presse locale de l'époque qui reprenaient plus ou moins la même histoire. Et surtout, ils ont.
Et la presse locale n'est pas allée sur place ?
Si, si, la presse locale a recueilli l'histoire après le passage du Daily Mirror. C'est le Daily Mirror, en fait, qui a eu l'exclusivité en premier sur cette affaire. La presse locale n'a réagi que la semaine d'après.
D'accord.
Donc voilà. Donc là, on arrive sur cette histoire qui est entièrement une légende. En fait, ça a commencé bien avant tout ça. Et c'est ce qu'explique l'historien local. Il dit qu'en 1852, donc c'est-à-dire 11 ans avant que les Boulle emménagent à Borly, on trouve déjà une trace écrite d'une légende qui ressemble énormément à celle de la nonne et du moine amoureux. En fait, dans l'édition du 10 mars 1852 du Bury and Norwich Post, qui est un journal local, on raconte déjà l'histoire d'une calèche fantôme et d'un moine sans tête. Sauf que cette légende-là, elle ne se passait pas à Borly, mais elle se passait à Acton, qui est un petit village qui est situé de l'autre côté de la rivière. Donc pour Andrew Clark, les Boulle auraient pu trouver un peu d'inspiration pour leur histoire là-dedans, et également un peu plus d'inspiration dans un roman comme Montezuma's Daughter de Wheeler Haggard, qui était très en vogue à l'époque, ou dans le poème Marmion de Walter Scott. Et en fait, dans ces deux œuvres, on retrouve des personnages de femmes qui sont emmurées. Et c'est des choses qui circulaient beaucoup à l'époque.
Des choses qui circulaient, des moyens d'éliminer les gens qui étaient...
Non, je veux dire, le roman et le poème, c'était des choses qui étaient très en vogue. Donc voilà. Et même Harry Price, donc voilà, j'évoquerai le... plus longuement le grand manque de sérieux de cet enquêteur du paranormal dans un futur épisode du Bureau des Mystères, je pense, a lui-même reconnu qu'il n'y avait pas eu de couvent et de monastère dans les environs, et il a qualifié cette histoire de moine et de nonne de, je cite, « mythe total ».
Ah, total.
Donc si même Harry Price dit que c'est faux, c'est que c'est complètement faux. D'ailleurs, Ethel Boulle, une des sœurs qui vivait à Borly et qui aurait vu l'apparition en 1900, a avoué en 1947 à la BBC qu'il ne s'était jamais rien passé de surnaturel au presbytère.
Et ben...
Voilà. Mais l'historien local, donc Andrew Clark, a continué son enquête, hein, et il estime, lui, que... c'est ce qu'il raconte hein, dans son article, qui est très justement nommé « Bullshit ». J'adore le titre de cet article.
Ouh, on a un sacré level de jeu de mots, là.
on est face à un historien un peu facétieux, qui donc du coup a écrit cet article et dans lequel il imagine la famille Boulle assise au coin du feu, dans son salon de sa maison gothique, en train de consulter des gravures sur ses histoires de moines et de nonnes dans les comtés autour, qu'il les imagine bien en train de faire travailler leur imagination et de commencer à inventer, consciemment ou pas, hein, cette histoire un petit peu romantique qui colle assez bien à l'atmosphère de leur maison.
Sans doute très consciemment, en l'occurrence.
Sans doute très consciemment. En fait, on ne pourra jamais vraiment savoir, également, comme j'en parlais au début, de Henri et Harry Boulle, donc le père et le fils, qui s'asseyaient à leur terrasse. On ne pourra jamais vraiment savoir avec certitude s'ils ont vraiment vu des choses ou non, s'ils s'installaient vraiment pour fumer le cigare à cet endroit-là, parce qu'en fait, il n'y a aucune preuve manuscrite qui permet d'affirmer avec certitude qu'ils ont assisté à ne serait-ce qu'une seule apparition.
D'accord.
Il y a un des frères Boulle, d'ailleurs, donc un autre, hein, un des frères de Harry, qui a expliqué que toute l'histoire, selon lui, venait sûrement de, je cite, « l'imagination féminine de ses sept sœurs
». Ça veut dire...
Alors... On est face soit à une simple réflexion purement sexiste,
j'imagine,
ou à la clé du mystère, hein, ça dépend. Parce que pour beaucoup d'observateurs, il est tout à fait possible que les quatre sœurs qui ont vu la nonne en 1900 aient créé de toutes pièces cette légende. Et il est aussi possible, c'est ça qui est intéressant, qu'elles aient fait appel à des personnes des environs pour entretenir, à travers les décennies, la légende. En 2000, il y a un habitant du coin qui a sorti un livre. Parce que, oui, Borly, on en a énormément parlé, hein, donc jusque dans les années 2000, il y a eu des livres sur le sujet. Il y a un habitant du coin qui a sorti un bouquin dans lequel il disait que quand il était adolescent, on lui avait demandé de se promener près du presbytère en portant une cape avec des bords relevés, comme s'il n'avait pas de tête, pour faire croire à une apparition.
Je vois l'idée.
Donc, selon lui, tous les habitants qui se sont succédés à Borly ont sciemment entretenu le mystère. Et le mystère a duré jusqu'à la destruction de la maison en 1944. Mais il y a beaucoup d'autres phénomènes que ça qui se sont passés à Borly, avec beaucoup d'autres témoins. Et ça, c'est une autre histoire.
Oh.
Dont je vous parlerai prochainement dans le bureau des mystères.
On nous fait un peu de teasing. Mais du coup, on classe cette affaire-là, du coup.
Alors déjà, sur le niveau de mystère, il était jadis très élevé, mais bon, comme j'ai dit, tout a été débunké depuis. Borly, n'est plus considéré comme la maison la plus hantée d'Angleterre, mais comme le plus grand canular d'Angleterre.
D'un statut à l'autre.
C'est complètement fou, et c'est pour ça que j'aimerais en reparler dans le bureau des mystères, parce que, voilà, je vous spoil un peu, mais toutes les autres choses à Borly sont entièrement fausses, est un tissu de mensonges. Mais, voilà, il y a beaucoup de choses à raconter, notamment comment Harry Price a monté de toutes pièces ce dossier de la maison hantée d'Angleterre où il ne s'est jamais rien passé. C'est complètement fou. Donc voilà, affaire classée, évidemment, mais pas entièrement, puisque, voilà, je vous ai introduit le personnage d'Harry Price, et je pense qu'on... On va beaucoup parler de son long passage à Borly, et de toutes les choses qu'il dit avoir vues, hein, c'est important, non pas qu'il a vu, dans un prochain numéro.
Quelqu'un de confiance, donc, allez.
Exactement.
Les tueurs de la lune de miel. Raymond Martinez Fernandez et Martha Beck sont un des couples de serial killers les plus célèbres de l'histoire. Ils ont notamment opéré en couple pendant un an avant de finir sur la chaise électrique. Raymond est né à Hawaï en 1914, mais va passer le plus clair de son enfance dans le Connecticut. Il a des parents d'origine hispanique et il va servir surtout... Une anecdote intéressante, les services secrets britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Il va ensuite s'installer en Espagne pour travailler dans une ferme chez son oncle, il a de la famille là-bas. Et il va aussi en profiter pour se marier, ça va être son premier mariage, vous allez voir, d'une très longue série. Mariage et femme qu'il va abandonner avec enfant, hein, d'un coup d'un seul, et va décider de rentrer aux États-Unis pour chercher du travail. Donc c'est quelqu'un qui fait les choses extrêmement rapidement. Hein. Il se marie, il fait des enfants, il part et il donne plus de nouvelles. La suite de l'histoire est déjà un tout petit peu plus rocambolesque, hein, puisque sur le bateau qu'il ramène aux États-Unis, une écoutille en acier va tomber sur Raymond et va lui fracasser le crâne et le blesser au lobe frontal, ce qui ne sera pas sans conséquence sur le reste, tu vas voir. Il sera amené à l'hôpital dès l'arrivée du bateau aux États-Unis. Alors il s'est passé un petit temps, donc il a eu une forte séquelle, hein, parce que le bateau était pas très rapide. Mais à partir de là, son comportement va changer, il va devenir asocial, un peu plus taciturne, voire carrément violent. Et les blessures étaient graves, puisqu'il a mis 4 mois avant de sortir de l'hôpital. Il y a eu 4 mois de soins avant que Raymond soit autorisé à sortir. À partir de là, il va être du coup un petit peu en galère. Il va décider, au moment où il sort, de voler quelques fringues. Sauf que, il va voler quelques fringues et va se faire attraper direct. Donc il va passer, à sa sortie d'hôpital, un an en prison. Autre petite anecdote rigolote, qui n'aura d'ailleurs pas d'incidence sur le reste de l'histoire, mais son petit colocataire, son roommate hein, en prison, va lui enseigner le vaudou et la magie noire. Chose qu'il ne va absolument pas réutiliser par la suite. Hein. Je le dis juste comme ça.
C'est dommage parce qu'après on a des attentes.
Oui, voilà, c'est pour ça que
le sacrifier des gens. Qu'est-ce qui...
Non, même pas. Sorti de prison, il décide d'emménager à New York. Où il va commencer à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Hein. Il a laissé sa femme. Alors techniquement, il est toujours marié. Hein. Il va commencer à répondre aux petites annonces que l'on trouvait à l'époque dans les journaux. Alors aujourd'hui, hein, on passe par Internet, on passe par des services. Mais il faut savoir, pour les plus jeunes de nos auditeurs et de nos auditrices, que jusque dans les années 90, les petites annonces se faisaient par voie de presse et que ça faisait même partie des gros revenus de la presse, hein, de payer pour faire passer des petites annonces. Il va répondre, petites annonces évidemment de rencontres, donc il va répondre aux annonces de femmes célibataires à la recherche d'un homme. Il va avoir du succès, ce cher Raymond, il va avoir du succès, mais lui ce qui l'intéresse c'est pas nécessairement les femmes, c'est surtout de les dépouiller, c'est-à-dire de prendre tout leur argent, parfois même d'aller jusqu'au mariage et de voler toutes les propriétés des personnes. Une fois même il va aller jusqu'à amener une de ses femmes en Espagne. Donc peut-être pour rencontrer sa première femme, je ne sais pas. Sa victime va mourir, du coup, dans des circonstances un peu troublantes. Et il va prendre, évidemment, encore une fois, possession de sa propriété. Ouais, tu as envie de dire quelque chose ?
Oui, j'ai juste en train de me faire une réflexion à propos de cette histoire. Je me rends compte que quand même, dans ce bureau des mystères de l'amour, on fait énormément croire en l'amour. Et je trouve ça beau.
Ah oui, on est comme ça.
Hein. Ça nous rappelle que l'amour existe, mais le vrai,
ça
le
pur. Mais attends, mais attends, tu crois pas si bien dire, parce que en 1947, Raymond, il va se calmer. Parce que en 1947, Raymond Martinez Fernandez, il va répondre à une autre annonce, mais cette fois-ci d'une femme nommée Martha Beck. Martha Beck, on refait un petit retour en arrière, est née en Floride en 1920. Alors elle souffre, malheureusement pour elle, d'un problème d'hormones assez violent qui cause notamment une puberté très précoce et du surpoids et une corpulence, disons, à la fois osseuse et musculaire qui est assez impressionnante. Donc Martha a fait des études pour devenir infirmière, mais son poids, sa corpulence était telle que ça l'empêchait de trouver un emploi à l'époque. Elle trouvera cependant un emploi, mais dans les pompes funèbres, puis dans un institut pour enfants handicapés. En parallèle, elle aura quand même de nombreux partenaires sexuels et va tomber enceinte d'une petite fille, puis quelques temps plus tard d'un petit garçon. Elle va même se marier, mais va divorcer rapidement du père du petit garçon, qui avait donc du coup pour nom de famille Beck, donc elle va décider de prendre son nom. Et là, c'est un moment où Martha est un peu dans le creux de la vague. Hein. Elle a deux enfants à charge, elle est sans emploi, c'est une mère célibataire, elle n'a pas d'argent. Mais, en revanche, elle a une vie un peu fantasmée, faite de romans d'amour et de romans à l'eau de rose qui, disons, lui permettent de traverser cette période en fantasmant tout simplement une sorte de prince charmant. Et elle va tomber, en 1947, sur la petite annonce que Raymond avait lui-même placée. Tu vois, une petite...
Paye ton prince charmant, quoi.
Paye ton prince charmant. Et ben, Raymond, avec son coup d'enclume sur la tête, en train de dépouiller ses pauvres victimes et... Et Martha, qui vit seule, la pauvre, qui a du mal à trouver un emploi. Et donc Martha et Raymond vont se rencontrer, sauf que Raymond va rapidement se rendre compte que Martha n'est pas riche, et qu'il va pas pouvoir, s'il lui soutire de l'argent, il va pas pouvoir lui soutirer grand-chose. Donc lui, il va abandonner Martha en disant « Bon ben elle, tant pis, hein, elle a pas d'argent, tant pis, je l'abandonne. » Mais Martha va revenir vers lui, va retourner à la porte de son immeuble, va sonner à sa porte. Et là, Raymond, il va comprendre un truc, il va se dire qu'elle, elle est prête à tout pour rester avec lui. Et là, il va lui demander de placer ses enfants en institution. Donc Martha va se séparer de ses enfants, placer en institution, pour vivre avec Raymond. Alors au début, il mène une petite vie de couple, mais très rapidement, Raymond va lui montrer, et va surtout lui expliquer les escroqueries qu'il mène. Et Martha, loin d'être énervée ni repoussée, va l'aider hein, dans ses petits larcins, elle va devenir sa complice.
Sauf que quand il va à la rencontre d'une femme pour l'escroquer, elle l'accompagne. Et bah, forcément, il faut bien qu'il trouve une petite astuce. Donc ce que fait Raymond, c'est qu'il la présente comme sa sœur. Donc Martha est souvent présente quand il va pour séduire les femmes en question. Il dit « voilà, je suis avec ma sœur, elle est en ville pour un moment ». Il trouve toujours un prétexte pour dire « voilà, je suis avec ma sœur » et tout. Sauf que ils vont souvent passer à l'acte, hein, Raymond et la conquête qu'il veut escroquer. Donc ils vont parfois même coucher ensemble et se marier. C'est-à-dire qu'il va se marier avec certaines de ses victimes. Et là, Martha, ça commence à plus trop lui plaire. Martha devient jalouse, hein, voire même très violente, puisqu'elle ne va pas supporter de voir son homme dans les bras d'une autre. Et en 1949, c'est à ce moment-là que tout bascule, puisqu'elle sera littéralement dans la pièce à côté pendant la nuit de noces. Et là, elle va pas supporter ce qu'elle va entendre, si bien qu'elle va prendre un marteau et fracasser le crâne de celle qui se nomme alors Janet Faye, qui est leur première victime et qui est à ce moment-là âgée de 66 ans, que Raymond, du coup, avait courtisé.
Je vois le genre de Raymond, effectivement.
Oh là là, tu vois le genre de Raymond.
Quelle ordure. C'est incroyable.
Et oui. Et le coup de marteau ne sera pas suffisant pour complètement tuer Janet, et c'est Raymond qui finira le travail en l'étranglant, donc là tout de suite, dès le premier meurtre, un travail en couple qui nous fait encore une fois croire que l'amour peut être là, hein, au moment où on l'attend le moins.
C'est beau, c'est
beau. Et oui, sauf qu'ils vont se retrouver évidemment en fuite, puisque une personne disparaît, et on ne fait pas disparaître une personne comme ça, elle avait des amis de la famille, hein, cette pauvre petite Janet. Donc ils vont partir de New York, ils vont se retrouver dans le Michigan. Et dans le Michigan, ils vont rencontrer Delphine Downing, qui, pauvre Delphine, est une jeune veuve, hein, mère de deux fillettes, d'une fillette de 2 ans, et non pas de deux fillettes d'un an. Et la rebelote, hein, Raymond fait croire que Martha est sa sœur, qu'ils sont en voyage, il la courtise, il la drague. Alors je sais pas, j'ai déjà vu des photos de Raymond, du coup, quand j'ai cherché. Je sais pas ce qui était autant aussi attirant chez lui, honnêtement, pour qu'il réussisse à se marier avec autant de femmes, à courtiser et à se marier avec autant de femmes. Mais ma foi, pourquoi pas. Peut-être c'est... Je sais pas, je ne trouve pas d'explication. Sauf que, donc, il rencontre cette Delphine. Ils vont aller chez cette Delphine, ils vont même s'incruster un petit peu chez elle. Sauf que la petite fillette de 2 ans va profondément énerver Martha, qui ne supportait pas les cris répétés de l'enfant. Et là, Martha, dans un geste de folie furieuse, va essayer d'étrangler la petite, mais ne va pas la tuer. C'est-à-dire qu'elle va l'étrangler, mais sans aller tuer la petite fille de 2 ans. Sauf que Raymond, il voit les ecchymoses, il voit les bleus autour du cou. Il pense que Delphine Downing va remarquer quelque chose et va peut-être se tourner vers la police. Donc qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de tuer directement la jeune femme dans son sommeil, pour parer à toute éventualité.
C'est vraiment quelqu'un de bien, ce Raymond.
C'est un mec bien, hein. C'est un mec très bien. Ils font la paire, tous les deux.
Et c'est marrant parce que elle, je l'imagine exactement comme Annie Wilkes dans Misery, physiquement, depuis le début de cette histoire.
Bah écoute, t'es sans doute pas très très
loin. Du coup, je vois une espèce de machine à tuer
se déplacer. Quand même, ouais, c'est ça, ouais, mais avec une corpulence, même avec encore plus costaud, tu vois. Enfin, même bien plus costaud. Le couple va décider de rester quelques jours dans la maison des Downing, du coup, de la jeune veuve. Le temps, d'un coup d'un seul comme ça, de noyer l'enfant dans le lavabo, puisque Martha ne supportera plus les pleurs de l'enfant qui du coup était laissé sans sa maman, donc elle va décider de le noyer dans le lavabo. Et c'est à ce moment-là que les proches de cette femme, donc Delphine Downing, et de son enfant vont s'inquiéter de leur disparition. Ils n'étaient pas très malins, ce couple de tueurs, et l'enquête de police remontera très rapidement à eux. Le procès, qui va être un peu long et compliqué parce qu'ils ont tous les deux apparemment des pertes de mémoire, alors ça s'explique beaucoup pour le coup sur la tête, hein. L'écoutille en acier sur la tête de ce pauvre Raymond explique beaucoup de choses, il avait des absences. Martha va aussi évoquer des absences, alors là pour le coup on sait un petit peu moins pourquoi. Il y aura 5 meurtres au total. Mais à d'autres moments du procès, Raymond va, c'est un procès qui est absolument pas cohérent, hein, pour le coup, va dire que ce n'est pas lui, que c'est Martha, Il y a d'autres fois où Martha va complètement oublier. Il y a des fois où Raymond va avouer 20 meurtres en tout. Donc ça va être un petit peu compliqué. C'est très dur de s'y retrouver. En tous les cas, ils ont été, les meurtres que je vous ai racontés, ce sont les meurtres pour lesquels ils ont été accusés. Le meurtre de l'enfant, le meurtre de Delphine et le meurtre de Janet sont les trois meurtres pour lesquels ils ont été jugés en 1949 et pour lesquels ils ont été condamnés à la peine de mort. Et donc ils vont passer sur la chaise électrique en 1951, ils vont passer sur la même chaise électrique. On est unis jusque dans la mort dans ces cas-là.
Jusqu'à ce que la mort nous sépare.
Jusqu'à ce que la mort les sépare, en l'occurrence. Mais dans le couloir de la mort, et je terminerai là-dessus, Martha sera parfois furieuse et encore jalouse. C'est-à-dire que même dans le couloir de la mort, Martha fera preuve de violence, même envers Raymond, apparemment. Il y a des fois où elle pouvait être violente physiquement envers Raymond, puisque Raymond a reçu énormément de demandes en mariage à partir du moment où l'affaire a été médiatisée. Et alors ça, quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais quoi, comment, pourquoi? Et en fait, c'est pas du tout un cas unique, et je terminerai vraiment là-dessus. C'est récurrent chez les tueurs en série, en tout cas hommes. Je sais pas si ça fonctionne pareil dans les deux cas. Mais dans le cas d'un tueur en série homme dont l'affaire a été médiatisée, il n'est pas rare que la personne reçoive énormément de demandes en mariage par lettre.
C'est même très fréquent. Je me souviens même que...
Mais moi, j'étais étonné, je savais pas du tout.
Bah, tu vois, Charles Manson, enfin, il y a énormément de serial killers qui ont eu des trucs, Ted Bundy, enfin, c'est hyper courant, ouais. C'est un attrait du morbide qui est assez fascinant, mais ouais, difficile à expliquer. Bah, écoute, merci pour cette histoire d'amour, ça fait plaisir.
Je sens qu'on est bien là, qu'on regarde sa moitié différemment, tu vois, après cet épisode.
Et est-ce que tu tuerais des enfants pour moi? Bonne ambiance, quoi.
Mon Dieu.
Bon, et ben écoute, on va classer cette affaire.
Ah oui, on la classe.
Cette session de travail du Bureau des Mystères est désormais terminée. Merci à vous de nous avoir écoutés.
Le Bureau des Mystères est un podcast Rivière à Ferraille et vous pouvez d'ailleurs nous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook qui a été renommée enfin après un long brainstorming. Vous allez voir qu'il a servi puisqu'elle s'appelle désormais Charles et Mathias. Alors on a un sous-titre encore inspiré de Ferré, le Bureau des Mystères, mais c'est maintenant Charles et Mathias. Et voilà, et je tiens à m'excuser d'ailleurs parce que j'étais un petit peu malade pour cette émission, j'espère que ça s'est pas trop entendu.
Mais non, pas du tout. Et vous pouvez nous retrouver également sur Twitter, sur le BDM, le podcast.
Eh oui, comme j'avais oublié le compte Twitter. Heureusement que tu me le rappelles parce que je l'avais oublié. C'est parce que c'est toi qui t'en occupes, c'est toi notre community.
Sur lequel nos auditeurs et nos auditrices sont toujours plus présents à nous laisser des messages et ça fait vraiment plaisir. Continuez à réagir. Oui, vous voyez, vous relevez parfois des erreurs que l'on fait dans cette émission et c'est important d'être juste.
Et on les note.
Vous pouvez aussi, une petite pub pour notre autre émission, inspirée de faits réels, puisque nous faisons ce mois-ci, donc je crois que ça sort la semaine prochaine au moment où vous nous écoutez, un épisode sur une histoire qui aurait tout à fait eu sa place dans le Bureau des Mystères et qui va sûrement vous passionner sur l'affaire Vallecas. L'affaire Vallecas, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait réel qui a inspiré le film Véronica. Donc si vous nous écoutez parler de la fameuse affaire Vallecas et plonger dans le Madrid des années 90 avec une jeune fille possédée et entendre parler du film Véronica, qui est très sympa d'ailleurs, vous pouvez écouter inspiré de faits réels. En attendant, on vous dit à bientôt pour un prochain numéro du Bureau des Mystères. Et en attendant ce numéro, méfiez-vous des fantômes lubriques.